Alors, notre groupe du début du 20e, n'est-ce pas?
La secte du chinois.
Ah oui, la secte du chinois. Parlez-nous des gens qui s'asseyaient sur cette banquette rouge.
On disait alors, n'est-ce pas, Barès, Suarez, de Régnier. Mais il ne faut pas oublier Proust, naturellement.
Également.
Alors, Proust a imprimé à Venise son sceau, n'est-ce pas? Il a créé une Venise qui n'est pas bien ressemblante à la Venise réelle, évidemment. C'est sa Venise à lui, n'est-ce pas? Il l'a créé de toutes pièces, on dirait. Et sur des éléments de mémoire et de fantaisie qu'on ne retrouve pas dans la réalité de Venise, évidemment, qu'on ne peut pas retrouver. Mais c'est une suggestion admirable, n'est-ce pas? Ces pages sur Venise qu'il a visité avec sa mère à l'hôtel Europe. Et puis il a visité Padoue et les fresques du Giotto, etc. Ce sont des pages, je pense, parmi les plus belles de son œuvre, n'est-ce pas?
Et le groupe du Chinois?
Alors nous sommes au Chinois et à Henri de Régnier. Henri de Régnier a été le plus fidèle dans un sens complet du mot, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui qui a regardé avec plus d'attention, avec plus même d'humilité, si on peut dire, n'est-ce pas, Venise, qui n'a pas ignoré la réalité de Venise, qui l'a voulu comprendre, qui l'a aimé. Et c'est à cause de cela que nous lui donnons une place tout à fait spéciale dans notre palmarès, enfin, des amis de Venise. Je ne l'ai pas connu personnellement, Henri de Régnier. Henri de Régnier a fait plusieurs séjours depuis 1899 jusqu'à 24.
Il a souvent logé au palais d'Ario.
Si je me rappelle bien. Alors, il a été assez souvent chez Madame Bulteau,
voilà,
qui habitait le palais d'Ario, et qui était un peu la directrice de ce cénacle, n'est-ce pas, et l'inspiratrice aussi de ce petit cénacle, en grande partie français. C'est le temps même où D'Annunzio paraissait parfois dans la petite maison rouge qui est presque en face du palais d'Ario où habitait justement la duchesse de la Baume, je crois, qui était la propriétaire, et Madame Bulteau qui était sa conseillère, son amie et sa conseillère. Il habitait là, il faisait de grandes promenades à travers Venise, il visitait les petits négoces des antiquaires, etc. Il faisait une vie vénitienne, tout à fait vénitienne. Il a cherché à se faire vénitien. Et c'est cela qui nous touche particulièrement.
Et savez-vous que les meubles vénitiens, les objets vénitiens d'Henri de Régnier sont passés en vente à Paris sans qu'on le sût, pour ainsi dire, il n'y a pas bien longtemps. Tout cela avait été conservé par sa femme, et puis quand elle est morte, ça a été dispersé.
Malheureusement, oui. Mais enfin, il y a aussi les poèmes vénitiens,
les poèmes
très, très gentils, très, très, très fins, très,
fleurs,
très délicats, qui sont vraiment des choses vénitiennes admirables. Avec ses accents à la française, n'est-ce pas, les Carmini, Vendramini, etc. Ce sont des choses pour nous très...
Et on pourrait dire que ce qu'il y a, le retournement que fait Henri de Régnier, c'est que la mélancolie n'est plus dans Venise, mais au contraire, Venise est si bruyante de vie et de joie de vivre que c'est lui qui est mélancolique de se sentir passer avec l'heure.
Ah, oui,
c'est un retournement.
C'est ça. C'est
peut-être lui qui a le mieux exprimé ce sentiment, ce rapport du passage des heures dans une éternité qui est Venise.
C'est l'heure la plus belle et le plus beau matin du reste de ta vie que tu goûtes peut-être en ce petit jardin sous ce ciel d'Italie. Le dahlia, la sauge avec l'œillet poivré et la rose d'automne fleurissent dans l'air pur, transparent et doré où l'abeille bourdonne. Derrière le mur rouge où grimpent en feston la vigne et la glycine, une fille frappe la dalle du talon dans la cale voisine. Puis tout se tait, et le silence de nouveau s'étale, s'éternise, jusqu'à ce que le bruit d'une rame sur l'eau le disperse et le brise. Le rio, la cale, le ciel et le jardin, cette cloche qui sonne, et ce silence, et cette odeur, et ce matin, et ces roses d'automne. Oh mon cœur, tout cela qui passe, tout cela qui te charme et t'enchante, jouis-en, oh mon cœur, car chaque instant s'en va, et nulle heure n'est lente. Et cependant, que te faut-il pour que tu sois plein d'une flamme alerte? Il suffit du parfum de ces fleurs que tu vois par la fenêtre ouverte. Aurais-je cru jamais que tu fusses content de si peu, cœur avide, toi qui rêvais jadis quelque illustre tourment ou battre plus rapide? Mais à quoi bon ce songe? Et qu'importe ces vœux où le destin s'oppose? Car c'est ceci que j'aime et ceci que je veux, sans qu'il soit autre chose. C'est un étroit jardin auprès d'un vieux canal sous ce ciel d'Italie, où sonne, avec un bruit de soie et de cristal, une heure où tout s'oublie. Henri de Régnier.
Et puis alors, il y a notre ami Vaudoyer.
Jean-Louis.
Inoubliable.
Inoubliable.
Qui a continué, quelque façon, l'œuvre de Henri de Régnier.
Oh, vous savez, sa découverte de Venise. Mais je crois qu'il vous l'a confié, cher Brion, un jour, cette manière
Vaudoyer
d'aborder
avait
Venise.
Une telle dévotion pour Venise avant d'y être jamais venu. Et il comprenait tellement que cette ville devait être la reine de l'univers que la première fois qu'il est venu à Venise, il s'est dit « Comment pourrais-je me chausser afin que mes pieds soient dignes de fouler les dalles en pierre bistrie de cette ville ?» Et alors il s'est dit, je ne peux pas me promener à Venise en chaussures ordinaires, il faut que je vienne en escarpins. Mais comme tout de même des escarpins noirs étaient un peu tristes pour la journée, Vaudoyer, venant à Venise pour la première fois, n'a apporté que deux paires de chaussures, une paire d'escarpins noirs pour le soir et une paire d'escarpins jaunes pour la journée. Et c'est ainsi que Vaudoyer triomphalement arpentait les cahiers de Venise avec ses beaux escarpins jaunes jusqu'à ce que vienne le crépuscule.
Noir et or, n'est-ce pas? Cette mélancolie de la mort pour les uns et cette joie de la vie pour les autres.
Vaudoyer, que vous avez très bien connu comme moi, n'est-ce pas, était un homme adorable, n'est-ce pas, d'une bonté, d'une clarté d'âme, d'une splendeur d'âme. Admirable.
Et vous dirais-je que dans ces dernières années où il était immobilisé et où il avait gardé sa vivacité merveilleuse d'esprit mais avec une mélancolie, j'allais le voir bien entendu souvent et un leitmotiv qui revenait c'était celui-ci, je ne peux plus marcher, je n'irai plus jamais à Venise. Et c'est un des regrets de la vie qu'il emportait.
Je sais bien cela parce que je l'ai vu quelques mois avant sa mort. Et je l'ai vu le jour après sa mort. J'étais à Lausanne lorsque André Champson, qui est lui aussi dans le jury du prix Veillon, où je suis depuis très longtemps, m'a dit, si vous voulez voir encore Jean-Louis, vous devez partir immédiatement, vous devez aller à Paris. Je suis parti immédiatement et je suis arrivé. Et le matin, j'ai acheté un journal et j'ai vu qu'il était mort. Alors je le vis mort. Il était encore beau, n'est-ce pas,
oui.
Avec son beau visage de Gaulois, n'est-ce pas, c'est
avec les moustaches, dans la tradition d'Henri de Régnier.
Il était magnifique.
Qui avait aussi, mais plus discrètement, Émile Henriot, qu'il ne faudrait pas que nous oublions dans ce groupe, n'est-ce pas. Avec Paul Alfassa
oui,
n'est-ce pas. Il y a eu là toute une pléiade.
Ça tient peut-être au groupe du Chinois, puisque le Chinois sous lequel nous sommes assis porte aussi de longues moustaches à la Henri II et à la Vaudoyer.
Voilà
pourquoi ils sont conservés. C'était peut-être le signe de reconnaissance de cette secte secrète du Chinois.
Et quand Henri de Régnier donnait ses rendez-vous, il disait...
À 5 heures, sous le Chinois. C'est un charmant personnage que le Chinois. Sur le mur où il est peint à fresque, il se dresse aimable, souriant et fier. Il est vêtu d'une courte robe de soie bleue que ferment des boutons de corail et chaussé de souliers précieusement arrondis. Il a le visage de sa race et il a le teint agréablement jaune. Ses longues et fines moustaches de mandarin sont tombantes comme milsier et selon la mode de ses congénères des potiches. Les manches de son vêtement sont naturellement pagodes. De la toque qui le coiffe s'échappe une belle natte bien tressée. Ses yeux obliques et bridés vous regardent avec un air d'affabilité souriante, qui n'est pas sans ironie. Il est fier et il a raison de l'être, car il n'est pas seulement un Chinois, il est le Chinois. Il est même l'Asiatique, car il représente l'Asie en compagnie des autres figures costumées qui symbolisent, sur les autres panneaux, les parties du monde et qui forment la décoration d'une des salles du Café Florian, où nous venons souvent nous asseoir dans le coin qu'il occupe et qu'il semble nous réserver. Aussi est-il devenu une sorte de point de ralliement, et la phrase « à 5 heures sous le chinois » veut dire que l'on se retrouvera au Florian à ce moment de la journée, sur la banquette de velours rouge, devant la table de marbre, où l'on nous servira le punch à l'alkermesse, ou quelques petits verres de marasquin, puisque la grappa est proscrite des cafés comme il faut de Venise. Henri de Régnier.
Eh bien, enfin, je ne finirai pas de parler de Vaudoyer, qui a été plus qu'un ami pour moi, qui a écrit pour moi des choses très belles, vraiment très belles. Je ne parle pas comme personne qui entre dans cet intérêt, enfin, mais en critique, voudrais-je dire, n'est-ce pas? Des pages superbes sur le vers français, enfin, très belles.
Il vous aimait beaucoup, il me parlait toujours de vous. Oui, et quand nous parlions de Venise, c'était inséparable de Diego Valéry. Quand vous irez à Venise, allez porter mon souvenir à Diego Valéry.
Et voilà, et le pauvre Vaudoyer s'en est allé, lui aussi, et tant d'amis. Enfin, c'est le sort de tout le monde, enfin. Et nous attendons notre heure.
Mais le violon joue.
Ça une hâte.
Et voilà que le violon commence cette musique éternelle de Venise et qui nous montre que la vie passe, mais elle ne cesse jamais, comme le fleuve du Grand Canal. Mais nous sommes vraiment dans l'atmosphère vénitienne. Vous savez, on divague dans Venise, on se promène dans Venise, et puis on s'éloigne d'une place et brusquement on s'y retrouve. Et pendant que je me promenais avec vous, tout d'un coup j'ai pensé à une ombre que nous avons frôlée et que nous avons oublié d'évoquer, qui faisait partie du groupe d'Henri de Régnier, d'Edmond Jaloux, de Paul Alfassa, de Vaudoyer. C'est Edmond Jaloux.
Edmond Jaloux, il ne faut pas l'oublier naturellement. Edmond Jaloux était un esprit tellement clair, tellement lucide, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré plusieurs fois, et j'ai eu de lui vraiment des illuminations, je voudrais dire, n'est-ce pas, critiques. C'était un Français d'une pureté, n'est-ce pas?
Et comme Brion, il conciliait tout, car c'était un Marseillais, donc un Méditerranéen, mais qui avait découvert le génie germanique. Très parallèle à Brion.
Et Jaloux l'expliquait d'une façon d'ailleurs très curieuse. Il expliquait que pendant le Moyen-Âge, la Provence était terre d'empire. Le Rhône divisait d'un côté royaume, de l'autre côté empire, à tel point que les bateliers du Rhône avaient comme signe, si vous voulez, le cri, l'équivalent du cri du gondolier, empire d'un côté et réaume de l'autre. Eh bien, Jaloux prétendant que nous, Provençaux, ayant été au Moyen-Âge terre d'empire, nous avions reçu déjà dès cette époque une espèce d'imprégnation de culture germanique.
Mais c'est ce qui vous prédestinait à Venise, car Venise, qu'est-ce que c'est sinon une ville qui est au fond de la Méditerranée comme Marseille et qui débouche sur l'Allemagne comme vous l'avez fait dans votre œuvre et comme Jaloux l'a fait continuellement? Vous voyez bien que vous étiez des prédestinés.
Et puis à Venise, on voit tout le monde, n'est-ce pas? C'est commode,
d'ici,
parce qu'on habite à Venise, on voit Paris, on voit passer Paris, enfin voilà, mais voilà à Venise et me voilà à Paris.
Et qui avez-vous encore vu passer comme ça, les
passants de la littérature
parisienne et française?
Je vois très souvent, je vois très souvent un très cher ami, un très cher poète, Jean Tardieu. Jean Tardieu, qui est un homme délicieux, vous le savez bien, n'est-ce pas? Un poète délicieux.
Claude Aveline
l'accompagne. À qui vient de partout les trésors de Venise que sont le ciel, la pierre et l'eau? Le trésor des Vénitiens, c'est moi. Je suis la feuille sur sa tige. Je suis la branche évadée d'un harem végétal, égoïstement clos, pour donner aux passants une caresse d'ombre. Je suis la vigne vierge, je suis le chèvrefeuille, je suis le platane sur la place carrée où tournent des enfants. Je suis la plante dans son pot, accrochée sous mille fenêtres, le basilic, le géranium, la sauge, le jasmin. Pour cette ville aux chats sauvages, je suis l'animal domestique. Je bois, j'ai froid, la nuit, je m'offre à la lumière. Je réponds au regard qui m'aime. Ni le ciel, ni l'eau ne meurent. La pierre fait la tombe de l'homme non moins que son palais. Tandis que nous partageons la respiration du monde, guetté par le même hiver. Claude Aveline.
Claude Aveline, oui, Claude Aveline, qui vient assez souvent. Maintenant, je crains qu'il nous a trahis pour la Bretagne, n'est-ce pas? Parce qu'il avait toutes les bonnes intentions de se fixer à Venise, quelque temps, quelques mois, les mois d'été, les mois meilleurs, enfin, pour Venise. Mais maintenant, il s'est dirigé, s'est orienté vers la Bretagne.
Vous voyez, vous avez parlé de la Bretagne, la barcarolle que nous entendions jouer par l'orchestre vient de cesser pro pudor. Voilà la condamnation de cette
place. Je ne me trompe pas, c'est Chateaubriand qui trouvait certaines ressemblances entre la Bretagne et Venise.
Et voilà. Oui.
Voilà quelqu'un qui avait trouvé la vérité. Hein?
Il disait sous l'autorité de Strabon, il disait que c'était de Venette qui avait habité l'Armorique, enfin l'ancienne Bretagne, n'est-ce pas, et qui était descendu à Venise. Bon, c'est de la science, je pense, de la fantascience.
Mais enfin, ça nous aide à pardonner à vous.
À moins que ce soit les Vénitiens qui aient colonisé la Bretagne, ce qui ne serait pas invraisemblable non plus.
Eh bien, le breton Chateaubriand écrit: je cherchais en me réveillant pourquoi j'aimais tant Venise, quand tout à coup je me suis souvenu que j'étais en Bretagne. La voix du sang parlait en moi. N'y avait-il pas autant de César en Armorique, un pays des Vénètes, Civitas Venetum, Civitas Venetica. Strabon n'a-t-il pas dit qu'on disait que les Vénètes étaient descendants des Vénètes gaulois?
Oui.
Bon, passons l'éponge sur le cadre.
Ce cortège de vivants et de morts, d'écrivains qui ont été nos amis d'hier ou nos admirés d'autrefois, ce cortège répond à la phrase chère à Henri de Régnier: allons-nous perdre dans Venise? Mais qu'est-ce que c'est qu'aller se perdre dans Venise? Tous les écrivains dont vous venez de parler nous l'ont appris. Aller se perdre dans Venise, c'est aller se retrouver. C'est aller se retrouver soi-même. Non pas voir une ville étrangère, non pas pénétrer dans un monde exotique différent de soi, mais en réalité, aidé par cette ville, aidé par sa beauté, aidé par son mystère aussi, retrouver ce que l'on a en soi de plus essentiel et de plus profond.
Mais je viens de comprendre un vieux symbole, c'est le symbole du labyrinthe. Le labyrinthe, et Jung a montré combien il dure à travers les imaginations, c'est d'errer, et on finit par trouver le centre qui est soi-même. Eh bien, disons que c'est le labyrinthe des ruelles vénitiennes qui nous donnera ce symbole.
Et comme Léonard de Vinci l'avait montré quand il avait dessiné le labyrinthe pour Vigevano, pour la Villa des Sforza, il avait placé au centre du labyrinthe une chambre hexagonale qui était une chambre de miroir. L'homme qui arrivait au centre du labyrinthe se retrouvait lui-même, mais multiplié par mille et indéfiniment répété dans les miroirs.
Le mouvement des ondes sonores va sur Venise comme l'ondulation perpétuelle de l'eau sans heurts et sans fatigue. Les sons jamais ne nous y donnent de choc. On les goûte, on connaît leur qualité et leur sens. Tandis que l'eau se déplace avec un frais murmure sous le poids de mon gondolier, j'entends au loin s'approcher, s'effacer les pas d'un promeneur invisible dont je distingue la jeunesse légère ou l'âge alourdi. Et dans ces quartiers solitaires,
La chaussure d'un étranger ne fait pas le claquement des sandales de bois d'une humble vénitienne. Inappréciable netteté de ces sensations qui viennent avec abondance émerger sur notre organisme délicieusement hyper-esthésié. Une telle tension nerveuse serait intolérable dans un climat sec, mais Venise nous baigne et, sauf les jours de Sirocco, ne nous laisse pas savoir que nos nerfs sont à vif. Pour les yeux non plus, rien n'est incertain ou confus dans Venise. Nous y recueillons sans trêve des images distinctes qui jamais ne se heurtent, et de quelques points qu'on les embrasse, elles se disposent merveilleusement. La pauvre loque jaune, violette ou rouge qui sèche sur une fenêtre fait à elle seule une valeur somptueuse. En même temps qu'elle concourt au romantisme général du palazzo, rose et lumineux par en haut, vert et humide par en bas, et de tout le canal qui s'enfonce avec ses barques stationnaires, avec ses poteaux d'amarre, avec ses eaux miroitantes ou mornes. Dans ces paysages de pierre, si de quelques petits jardins un arbre élève ses hautes branches, et par-dessus un mur les abaisse sur le sentier d'eau qui les reflète, cette rareté végétale ajoute un miracle de jeunesse aux prodigalités de l'invention architectonique. Maurice Barrès.
Histoire et légende, vers et prose, spleen et idéal, grandeur et décadence, Dichtung und Wahrheit, tout a été déjà mis en œuvre pour traduire par des mots l'ineffable beauté de cette ville. Résultat de ce travail, beaucoup de pages admirables, mémorables même, mais non pas une page qui vous donne la clé du mystère. Si l'on continue à écrire de Venise, ce n'est donc pas qu'on espère en achever sa louange, mais seulement pour soulager son âme. Dante parle ainsi de Béatrice, et c'est ainsi que nous parlons de Venise, notre amour en forme de ville. Dante parle così di Beatrice, e noi parliamo così di Venezia, nostro amore in forma di città.
C'était Entre Murano et le Café Florian, avec la participation de Diego Valeri, Ludovico De Luigi et des maîtres verriers Barovière et Tozzo. Au cours de cette émission, vous avez entendu des textes de Chateaubriand, Montaigne, Rousseau, Balzac, Byron, Musset, Henri de Régnier, Maurice Barrès, Madame de Staël, Gabriele D'Annunzio, Théophile Gautier, Jean-Louis Vaudoyer, Claude Aveline. Ainsi s'achève Heure Vénitienne, une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française.